Donc, peu de temps après les miracles du jour de la Pentecôte, dans l'année 31 de notre ère, Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier lorsque le cours de leur journée a complètement changé. J'ai essayé de rechercher, il n'y a pas d'indication de combien de jours après la Pentecôte c'était cette matinée de prière, mais on peut imaginer que ce n'était pas plus que quelques jours après le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas précisé, mais c'est quelque chose qui est censé être attaché ou sous-jacente, si vous voulez, aux gros événements de la fête de la Pentecôte. Donc, considérons Actes chapitre 3 pour commencer aujourd'hui. Nous allons comprendre et considérer l'histoire de l'homme sur les marches du temple dans Actes chapitre 3. Donc, si vous pouvez, pour résumer ce récit, on voit que ce n'était pas la première fois qu'ils se croisaient. C'est un boiteux, un homme qu'il fallait porter jusqu'à la porte du temple. Il subvenait à ses besoins en demandant l'aumône. Et donc, nous lisons à partir du verset 1, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. » Donc, pour ça, nous avons une précision. Nous avons une précision, mais la date n'est pas précisée. « Il y avait un homme boiteux de naissance qui comportait, et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Donc on arrête là pour comprendre un petit peu de ce qui se passe. Sa voix retentit auprès de Pierre et Jean alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le temple. Ils demandaient l'aumône. Ils ne demandaient pas la guérison. Peut-être on peut considérer cela. Il était en place tous les jours depuis un certain temps pour demander quelque chose pour ses besoins physiques, pour survivre, n'est-ce pas? Et puis, voilà, au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Donc, ce qui se passe, il demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Donc, c'est qui demande maintenant? Si vous voulez, le ton change un petit peu. C'est comme si la personne faisait son habitude, était en train de faire son rythme habituel, et puis demander l'aumône. On peut imaginer quelqu'un, des fois, même avec les yeux fermés, ils vont demander l'aumône, n'est-ce pas? Ils vont, dans un état de souffrance, ils vont rester là. Des fois, ils ont la tête baissée aussi. Vous pouvez peut-être imaginer ça. Ce n'est pas précisé exactement, mais pour une raison ou pour une autre, Pierre a demandé qu'il regarde. Regarde-nous. Et puis, verset 5, « Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. » Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Et puis, Pierre passe à l'action. Après avoir dit ça, il ne se contente pas de dire à l'homme simplement ce qu'il doit faire. Il lui tend la main. Au verset 7, il lui tend la main pour l'aider à se lever. N'est-ce pas? Et le prenant par la main, verset 7, la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, la partie affaiblie reçoit la force. C'était l'heure de la prière. Il y avait certainement beaucoup de personnes qui passaient pour entrer dans le temple. Donc, on ne sait pas depuis combien de temps cet homme était-il entré pour prier. On ne sait pas, mais il était à la porte. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais faire quelques petits avertissements, si vous voulez. Il faut reconnaître que nous avons tous besoin de guérison et qu'il y a tant de personnes qui souffrent en ce moment. Nous le reconnaissons. Il y en a qui souffrent vraiment, il y en a qui ont de divers problèmes de santé ou difficultés. Et alors, il faut reconnaître ces choses-là. Il ne faut pas oublier ça. Et il faut aussi reconnaître que Dieu nous a donné quelque chose. Si vous voulez, il nous a donné quelque chose qui est inestimable. Il nous a donné quelque chose qui dépasse même tout ce que le monde peut nous offrir. Même si nous avons encore besoin d'argent pour survivre dans ce monde actuel, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître que Dieu nous a offert quelque chose, pas de l'argent, pas de l'or pour nous enrichir, mais quelque chose qui dépasse tout ça. Et troisièmement, il faut reconnaître que dans cette vie, nous ne sommes pas tous guéris en même temps, ni de la même manière. Et que, quel que soit notre état physique ou émotionnel, nous sommes capables quand même de reconnaître ou de connaître des moments de rafraîchissement, en partie maintenant, mais pleinement dans le royaume de Dieu à venir. Donc ça, pour ce serment aujourd'hui, ce sont quelques avertissements à tenir en compte, à garder à l'esprit, parce qu'on ne peut pas imaginer oublier la souffrance. On ne peut pas imaginer ça, et j'espère que nous allons, avec des points assez clairs, proposer un cheminement pour mieux comprendre ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quel est le sujet? J'aimerais poser une question. Ce que nous recherchons dans notre relation, avec Dieu. Alors, recherchons-nous la guérison auprès de Dieu, ou nous résignons-nous à notre maladie ou à notre infirmité, ou même simplement à notre routine quotidienne de la vie? Et au lieu de rechercher les choses spirituelles et la guérison spirituelle et la guérison de Dieu, est-ce que nous résignons-nous à chercher l'aumône, peut-être la satisfaction de nos besoins physiques? D'une autre façon de poser la question, c'est où est notre focus? Quelle est notre priorité? Parce que cette question s'inscrit dans le contexte, dans l'attente, de l'attente en avant de la Pentecôte. Donc, il existe 7 semaines entre la fête des pains sans levain et la Pentecôte. Que ferons-nous de ces semaines, de ces 7 semaines? Nous sentons-nous un peu fatigués par toutes les activités des jours saints? Ou bien le fait de célébrer la Pâque et la fête des pains sans levain nous a-t-il dynamisés, purifiés et a-t-il ravivé notre relation profonde avec Dieu? J'espère que nous nous sentons tous plus proches de Dieu depuis la fête des pains sans levain. J'espère que les jours saints nous ont donné soif de justice. Donc le titre de ce sermon aujourd'hui, c'est « Assoiffé de justice ». Autrement dit, on peut sous-titrer « De la supplication à l'exultation ». Donc, « Assoiffé de justice ». Avons-nous soif de justice? Tirons-nous parti du don du Saint-Esprit en nous? Étudions-nous et mettons-nous en pratique la parole de Dieu? La Pentecôte n'est pas un temps pour s'aimer, mais un temps pour récolter, n'est-ce pas? Et pour porter du fruit. Alors, quel est le fruit de notre travail en matière de croissance spirituelle personnelle? Et en particulier pendant ces 7 semaines. Est-ce que nous sommes concentrés sur un but de croître spirituellement pour porter plus de fruits? Parce que on n'est pas obligé d'attendre la Pentecôte pour ce rappel, n'est-ce pas? Idéalement, le jour de la Pentecôte serait vraiment le summum, si vous voulez, ou le résultat, ou la célébration de cette croissance spirituelle. Donc, on est censé de se réjouir pour le jour de la Pentecôte. On est censé d'être en train de partager le fruit que Dieu nous a fait croître en nous. Donc, sommes-nous assis sur les marches du temple à demander l'aumône? Autrement dit, est-ce que nous sommes en train de juste vivre jour après jour dans un rythme qui peut-être s'occupe de nos besoins physiques, mais c'est un rythme qui nous éloigne d'une croissance spirituelle et une croissance dans notre relation avec Dieu? Ou, de l'autre côté, avons-nous soif de justice? Est-ce que nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu nous a déjà donné? Dans un sens, marcher, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, on ne pense pas à grand-chose au fait de marcher. C'est quand on ne peut pas marcher que marcher devient important, n'est-ce pas? L'idée d'utiliser ma main droite ou ma main gauche, bon, de tous les jours, je n'y pense pas. Mais le jour que je n'ai plus l'usage de ma main droite, je vais y penser tout de suite. Je vais quand même avoir un rappel de l'importance de ma main droite. Et c'est la même chose avec Dieu, avec ce que Dieu nous offre, ce qu'il nous donne avec le Saint-Esprit en nous. C'est qu'il faut remuer l'Esprit en nous, il faut y penser, il faut puiser cette puissance en nous, au lieu de simplement vivre une vie quotidienne qui ne dépend pas de Dieu, qui est, dans un sens, éloignée de Dieu ou pas intégrée avec ce que Dieu veut de nous. Parce que chacun de nous avons nos objectifs personnels, nous avons notre peut-être métier, nos responsabilités, mais ces choses qui font partie de la vie quotidienne peuvent remplir la journée, peuvent prendre tout notre temps. Mais à nous d'être assoiffés pour la justice, à nous de ne pas oublier la soif pour la justice. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je vais servir de cette période entre la fête des pains sans levain et la Pentecôte pour nous réorienter, j'espère, à cette croissance que Dieu voudrait en nous. Ce n'est pas juste une période d'attente. C'est sûr que ceux qui étaient en train d'attendre après la résurrection de Jésus-Christ, ceux qui étaient en train d'attendre le jour de la Pentecôte, après l'ascension, c'est sûr, ils avaient besoin d'attendre. Mais ils n'étaient pas inactifs, ils sont restés actifs aussi. Donc, sommes-nous assis sur les marches du temple vis-à-vis de notre relation avec Dieu? Ou, donc, restons-nous à l'écart pour observer l'œuvre de l'Église des fois? Les mises à jour du bureau chef sont tellement appréciées, mais est-ce que nous avons l'impression d'observer l'Église ou est-ce que nous ressentons notre implication dans l'Église, notre rôle? Quelle est notre vocation, finalement? Quelle est notre vocation? Est-ce que nous sommes, si nous nous identifions avec cela, est-ce que nous sommes découragés? Est-ce que nous sommes offensés? Est-ce que nous sommes distraits par la vie quotidienne? Est-ce que c'est pour cela que nous ne sommes pas capables d'investir dans notre propre développement spirituel? Ou, de l'autre côté, menons-nous une vie pleine de vigueur, en nous abreuvant de la puissance de Dieu. Et encore, et mangeant le pain de vie pour grandir, pour croître ainsi. Considérons Matthieu 5, rapidement, pas pour longtemps, mais Matthieu 5, nous avons ce que nous appelons les béatitudes, n'est-ce pas, au début du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5. Les béatitudes, nous avons déjà parlé dans le passé des béatitudes, mais je voulais juste nous rappeler d'une béatitude tellement encourageante. Une béatitude qui devrait nous encourager à avoir la soif pour la justice. Donc, Matthieu 5 et le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. D'accord? Donc, la soif pour la justice ne veut pas dire qu'on n'a pas de justice. La soif de la justice, ça dépend de nous. C'est le produit, c'est le résultat de notre relation avec Dieu. Donc, la soif pour la justice. Si on a soif pour quelque chose, on va aller chercher quelque chose. Si on a faim pour quelque chose, on a l'objectif d'aller manger cette chose-là. D'accord? Je crois que pendant la fête des pains sans levain, on avait peut-être eu un moment où on aurait bien aimé un hamburger ou quelque chose comme ça, non? Admettons, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible qu'on a eu un moment où le corps, qui est faible spirituellement, peut-être a voulu quelque chose levé, un pâte levée? Alors, l'esprit et le cerveau a dit non, c'est la fête des pains sans levain. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce rappel, n'est-ce pas? Mais admettons que c'était le cas, il y a des choses à ne pas manger. Mais si on a faim pour quelque chose, et si on médite sur ça, ou si on a soif pour quelque chose, et on médite ça, on va peut-être augmenter notre soif ou notre faim. Parce que l'idée de savourer quelque chose sans y toucher, l'idée d'imaginer manger ou boire quelque chose agréable, ça peut même développer des choses qui se développent, qui se font toutes seules, le corps. Pavlov a démontré ça avec les chiens, et nous sommes tous connectés, le cerveau avec le corps. Il y a des connexions, des réflexes qui existent. Donc, nous pouvons dire que nous croyons aux promesses de Dieu. Mais vivons-nous en elles? Les béatitudes regorgent de promesses. Si vous lisez toutes les béatitudes, il y a beaucoup de promesses. Mais elles nous rappellent également le caractère que Dieu souhaite développer en nous. Donc, avec ce but de développer un caractère divin, nous avons aussi des promesses pour nous encourager. Donc, dans le même sens, Dieu ne veut pas que nous attendions la Pentecôte pour abreuver, pour boire de cette justice, pour pratiquer, si vous voulez, la justice. Mais le fait d'en avoir bu ou goûté, c'est pas censé de nous rassasier, hop, pour moi c'est fini, c'est tout ce qu'il me faut. On est censé de toujours maintenir, entretenir cette soif pour la justice. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire dans nos prières, dans nos habitudes de prier, dans nos habitudes d'étudier, dans notre interaction avec les autres, dans l'Église. Il y a des façons d'encourager cette soif pour la justice, non seulement en nous-mêmes, mais entre nous tous. Donc, nous sommes censés de stimuler ou de remuer le don du Saint-Esprit aussi. Considérons 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Nous n'avons pas besoin d'attendre le jour de la Pentecôte ou la fête de la Pentecôte pour puiser dans la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas censé d'attendre sans rien faire. Il faut quand même faut penser à comment se servir du temps que Dieu nous a donné. Il faut racheter le temps. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1 et le verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte, » Paul écrit ceci à Timothée, « je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et puis, il continue, « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà la puissance à puiser, la puissance à ne pas oublier. La puissance qui nous alimente, si vous voulez, qui nous donne l'énergie ou la capacité d'atteindre la justice. D'accord? Nous pouvons avoir soif de quelque chose et ne pas atteindre ces choses-là. Si nous sommes perdus dans le Sahara, on peut bien avoir envie de boire de l'eau, mais s'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas le boire. Mais si on a une bouteille d'eau, on peut en profiter. C'est ça. Des fois, nous sommes comme des pèlerins qui marchent dans le désert avec une bouteille d'eau dans la main et on n'y pense pas. Comme des fois, je suis ici, j'ai une bouteille d'eau qui m'attend si j'en ai besoin et j'y pense pas. Mais elle est là. Mais quand il s'agit de l'Esprit de Dieu, on est censé de boire. Et quand il s'agit de la justice, on est censé d'avoir soif pour la justice. C'est ça. Donc revenons maintenant à l'histoire racontée dans le chapitre 3 des Actes. Dieu a provoqué quelque chose ici, à l'extérieur du temple. C'est Dieu qui a agi. Mais l'homme ici, la personne qui souffrait, était coincé, il était immobile, il n'avançait pas. Il avait besoin de ses propres amis pour qu'il soit déplacé. Il était un peu impuissant, on peut dire. Il était vraiment dépendant des autres. C'est très faible. Est-ce que nous avons du mal, des fois, à être dépendants des autres? Certains d'entre nous sommes programmés pour être très indépendants et autonomes. Mais si nous tombons dans une situation où nous sommes obligés d'être dépendants, des fois ça peut nous faire mal, ça peut demander un ajustement. Cet homme-là n'avait pas besoin de cet ajustement, il avait déjà ajusté, si vous voulez, sa vie, parce qu'il était comme ça depuis sa naissance. Donc, Actes chapitre 3, il était figé, il était immobile, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait même pas entrer dans le temple, juste en étant à la porte. Il avait besoin de quelqu'un d'autre s'il allait faire ça, par exemple. Donc, si ses amis l'avaient placé ailleurs, il serait bloqué. Il aurait été bloqué là. Heureusement, il avait des amis pour le déplacer. Donc l'homme ici, sur les marches du temple, à la porte, était physiquement rapproché du lieu saint, mais il n'était pas entré. Il était assis dehors, encore une fois, impuissant. Il demandait l'aumône, il cherchait pour ses propres besoins journalières. Nous ne savons pas s'il était autorisé à entrer dans le temple ou pas. C'est pas comme écrit qu'il était défendu d'y entrer, mais ses jambes ne pouvaient pas le porter. C'est ça qui est clair. Il était boiteux de naissance. Donc, intéressant parce que il est possible d'observer depuis l'extérieur. D'observer depuis l'extérieur sans y participer. Si nous faisons un parallèle avec notre développement, notre vie spirituelle, il est possible d'observer en étant un peu l'extérieur de l'Église, sans y participer pleinement. Avoir le cœur un peu bloqué de pouvoir participer pleinement. Donc l'homme à la porte mendiait de l'argent, il criait de sa voix, sachant que ceux qui passaient se sentaient enclins à l'aider. Certains commentaires indiquent qu'à l'époque, les Juifs pensaient faire leur bonne action journalière en donnant une petite peu d'argent à quelqu'un. Donc c'était un rituel pour eux de donner à quelqu'un l'aumône. Donc peut-être cette personne était bien placée parce que il profitait de ce rituel peut-être plus ou moins sincère. Mais avez-vous déjà entendu l'expression « on obtient ce qu'on demande »? You get what you ask for. Parfois, nous pouvons oublier de demander des choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu. Et c'est ça, notre vie quotidienne peut nous distraire de choses importantes aux yeux de Dieu. Notre vision, bien sûr, c'est ce que nous voyons avec nos yeux. Et notre foi, c'est vis-à-vis des choses invisibles, des choses que nous ne voyons pas tous les jours, mais que Dieu nous a demandé de méditer pour qu'on puisse les voir dans notre imagination. La puissance de l'imagination humaine est incroyable. Cela nous permet d'imaginer toutes ces choses qui dépassent nos limites physiques. Donc, à part cela, je peux vous dire par expérience qu'il y a des moments dans la vie où l'on est simplement heureux de passer une journée de plus. Avez-vous connu une journée comme ça? On était juste content de pouvoir passer une journée de plus. Des moments vraiment difficiles, décourageants, douloureux, ça existe dans la vie. Parce que nous sommes des êtres humains dotés de faiblesses physiques et émotionnelles que Dieu nous a permis de posséder. C'est lui qui a choisi de faire ça. Nous nous sentons parfois impuissants aussi. Impuissants à changer. Impuissants à s'en sortir. Impuissants à trouver notre chemin pour sortir de cette vallée semblable à la vallée de l'ombre de la mort. Et bien sûr, un jour viendra où cette vie physique prendra fin pour chacun de nous. Cependant, jusqu'à ce moment-là, et même alors que nous abordons ce dernier chapitre de la vie, si nous sommes en face à face à ça, nous devons rester assoiffés de justice, et pas seulement de santé physique ou de bonheur, mais de justice. Nous pouvons prier pour la force. Nous pouvons prier pour être guéris. Nous pouvons prier pour que Dieu renouvelle notre joie. Ce sont des choses très importantes à considérer dans nos prières. Et nous pouvons toujours trouver quelque chose pour lequel nous pouvons rendre grâce et demander à Dieu de nous régénérer, de nous donner encore, de nous renouveler. Connaissez-vous l'exemple de Job? Job avait besoin de réconfort lorsqu'il a été frappé. Considérons Job chapitre 3. Il avait besoin de réconfort lorsqu'il a été frappé par une attaque de Satan que Dieu avait permise. Jusqu'à ce point-là. Job chapitre 3. Considérons les propos ici, de Job, au verset 11. Job 3, verset 11. On peut considérer que Job était très bas, très, très, très affaibli. Il était très affaibli à ce moment-là, jusqu'au point... Il a dit, « Pourquoi, verset 11, ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? » Ça demande beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance pour arriver à ça, frères et sœurs. J'espère que personne d'entre nous est arrivé à ce stade. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ici ont au moins un exemple de moments difficiles traversés. Mais ces moments difficiles ne devraient pas nous faire oublier notre soif de justice. Si nous pouvons fixer ça dans notre tête avant de traverser des épreuves les plus dures de la vie, on peut avoir un gros avantage, frères et sœurs. Si on peut fixer cela, même si je traverse des moments les plus difficiles, je ne vais pas perdre ma soif de justice. Je vais faire de tout mon mieux pour garder cette soif de justice, cette relation avec Dieu. Malheureusement, Job n'a pas bénéficié d'un soutien solide de la part de sa femme. Souvenez-vous, Job chapitre 2, verset 9. Les seules paroles rapportées de la femme de Job alors qu'il faisait face à l'épreuve de la perte de ses enfants et de sa santé se trouvent dans Job 2, verset 9. Et je peux vous dire avant, ce n'est pas très encourageant. Sa femme, verset 9, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Pas très encourageant à ce moment-là. Par contre, considérant ceci, prêtons une attention particulière à la réprimande de Job, de sa femme. Verset 10, « Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée, quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job avait déjà une perspective qui l'a aidé à traverser cette épreuve. Sa femme n'avait pas cette perspective, n'avait pas compris ces choses, mais Job avait bien compris. Même ses amis, malheureusement, se montrent aussi brusques et durs à son égard. Ils suggèrent, voire insistèrent, sur le fait que Job avait forcément fait quelque chose pour mériter ses souffrances. Encore une fois, ce n'est pas très encourageant. Donc, les moments difficiles peuvent nous abattre et nous épuiser spirituellement et émotionnellement. Les longues épreuves peuvent nous priver de la joie de vivre et nous faire perdre notre capacité à apprécier les choses simples de la vie. Le quotidien peut devenir monotone, une simple routine, distrait d'une relation étroite avec Dieu. Nos prières et notre étude peuvent même perdre de leur sens. Cela peut nous amener à oublier, à douter et à nous éloigner de Dieu. Par contre, Dieu ne veut pas qu'on fasse cela. Et dans l'histoire de Actes chapitre 3, dans le récit, Dieu accomplit un miracle. C'est Dieu qui le fait. Pierre a dit quelque chose ici de très important dans la guérison de cet homme. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Avez-vous considéré cela? Que avant, nous avons lu dans les évangiles de Jésus-Christ qui guérissait. C'est sûr qu'il a envoyé ses disciples pour guérir, pour accomplir l'œuvre. Mais dans Actes chapitre 3, c'est la première fois que nous observons les détails d'un récit qui nous compte comment ces apôtres allaient intervenir. Et alors, c'est très encourageant, n'est-ce pas? Cette guérison fut, je crois, la première guérison rapportée dans laquelle un apôtre invoqua le nom de Jésus. Et c'est très important parce que Jésus-Christ était déjà ressuscité et à la main droite du Père. Maintenant, ça, si vous voulez, le bâton est entre les mains des apôtres. Donc, c'est un moment fort où l'homme a connu un changement immédiat et indéniable. Ses jambes ont été guéries et miraculeusement, il a su marcher et sauter sans aucune rééducation physique. Ou même aujourd'hui, si nous avons un guérison, si quelqu'un commence son rétablissement, même si l'os n'est plus cassé, même si le muscle est encore en état, il faut quand même des fois réapprendre à marcher, en particulier à sauter. C'est un homme transformé que nous observons ici, doté d'une puissance qu'il n'avait pas eue de toute sa vie. Imaginez ça, de ne pas avoir pu marcher et puis marcher. C'est ça que je voulais dire avant. C'est nous, pour nous, on ne pense pas beaucoup à marcher. Mais cet homme-là, c'était un changement radical pour lui. Donc, nous naissons sans un élément dont nous avons besoin pour être complets. Donc, un parallèle, d'accord? Nous naissons sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu par laquelle le Christ vit en nous. Mais nous avons besoin d'un miracle de Dieu, son appel et la puissance du Saint-Esprit, pour être régénérés et connaître la véritable justice. Donc, considérons le verset 8 maintenant, acte 3, verset 8. Acte 3 et le verset 8. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir reçu cette guérison? Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Intéressant. Il a laissé derrière lui son ancienne vie passée à attendre dehors. Il a laissé ça derrière lui. Toute cette, si vous voulez, cette habitude, cette vie quotidienne d'attendre dehors, il l'a laissé derrière lui. Il n'est pas retourné s'asseoir après avoir été guéri et continuer à mendier. Il n'a pas demandé au moine après. Il aurait pu s'asseoir, « Merci, messieurs, ok, je vais quand même demander le moine. » Mais non, il a beaucoup apprécié ce miracle. Cela aurait été très étrange, n'est-ce pas? « Oh, c'est pas grave, en réalité, c'était l'argent qui m'intéressait plutôt que la guérison. » Non, ça aurait été très, très surprenant. Mais lui, il a laissé son ancienne vie derrière lui. Et il s'est approché de Dieu, tout de suite. Il n'est pas parti courir dans les rues de Jérusalem, du moins pas tout de suite. Il est entré dans le temple pour louer Dieu et pour le remercier de ce miracle. Peut-être on n'a pas pensé à ça, mais il est très important qu'il ait rentré tout de suite pour louer Dieu. Ce miracle n'était pas seulement pour lui, par contre. Il était destiné à inspirer les autres. Considérant le verset 10 et 11, verset 10, il reconnaissait que c'était lui. Donc, excusez-moi, verset 9, on peut commencer. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Donc nous avons une foule qui s'assemble tout de suite, et à travers cet exemple, nous voyons le genre de renouveau que Dieu voudrait nous offrir. Un renouveau implique un grand changement. La joie remplace la résignation et le découragement. Au lieu de rester immobile, figé, nous voyons un tourbillon d'activité, au moins dans notre fort intérieur. Nous sommes renouvelés, peut-être spirituellement plus que physiquement des fois, parce que nos corps, ils ont des limites, bien sûr. Mais ce renouvellement doit commencer avec notre relation avec Dieu. Que nous soyons témoins de l'intervention de Dieu dans notre propre vie ou dans celle d'une personne que nous connaissons, nous avons des raisons de nous réjouir. Que ce soit à nous ou à un autre membre qu'un don ait été accordé par Dieu, nous avons des raisons de nous réjouir, car nous faisons partie du même corps. Considérons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 18. Ici, dans ce passage, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps physique. en disant au verset 18, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient d'un seul membre, où serait le corps ?» Donc, il est déjà prévu que nous soyons différents, que nous ayons une diversité de talents et de capacités. Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, il insiste sur l'unité du corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Et puis, qu'est-ce que nous comprenons ici? Ici, le mot grec au verset 23, c'est intéressant parce que dans le français, c'est assez clair, parce que c'est l'idée d'être entouré d'un plus grand honneur. Et l'idée du mot grec peretitaime, c'est l'entourer, c'est revêtir, c'est recouvrir. Donc, c'est le mot grec ici pour entourer de quelque chose. C'est lié à l'idée d'être habillé, revêti de quelque chose. Par conséquent, si nous appliquons cela aux besoins physiques au sein de l'Église, si vous voulez, nous couvrons, nous protégeons, voire nous parons les membres les plus faibles. Nous pourrions penser au type de soins dont nous avons besoin, ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Même des fois, si des personnes reçoivent une nourriture, il faut aussi leur fournir des vêtements et un abri. Les gens ont besoin de tout ça pour avoir une vie assez paisible. Ça, c'est la base, n'est-ce pas? C'est une sorte de couverture quand on considère les besoins physiques. L'idée de manger, avoir quelque chose à manger seulement, ce n'est pas assez. Il faut aussi entourer, il faut les donner une protection. Puis, il y a les jeunes, peut-être les plus démunis, les petits-enfants de l'Église. À mesure qu'ils grandissent, il faut du temps à nos jeunes pour atteindre la maturité. Pareillement, ils sont exposés à des influences extérieures telles que la pression des pères et de mauvais modèles autour d'eux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons les entourer, les protéger? Est-ce qu'ils sont peut-être pas démunis d'une façon physique, mais peut-être plus faibles dans un sens de les protéger en attendant leur maturation? Même les adultes mûrs, matures, au sein de l'Église, traversent des épreuves qui peuvent les affaiblir. Ce sont là des moments où ceux qui en ont la capacité peuvent venir en aide à un autre membre. Si nous réfléchissons aux besoins spirituels, et si nous quittons l'idée de simplement physique, le mot « faible » au verset 22 est un mot assez intéressant, peut faire référence au sens figuré à une faiblesse spirituelle ou morale. Donc, non seulement la faiblesse physique, mais aussi la faiblesse peut-être mentale ou morale. Comment pourrions-nous imaginer protéger ou couvrir, entourer un membre qui est plus faible? Nos relations les uns avec les autres sont-elles suffisamment solides pour que nous puissions demander à un autre membre, voire un pasteur, de l'aide pour une question spirituelle ou émotionnelle que nous avons besoin d'aborder? J'espère que nous sommes capables. Maintenant, considérons le verset 24 et 25. 1 Corinthiens 12, verset 24, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Avez-vous considéré la puissance de cette pratique-là récemment? Cette sollicitude des plus forts envers ceux qui sont dans le besoin suscite souvent simplement de la reconnaissance et de la gratitude chez ceux qui sont les bénéficiaires. Les plus démunis peuvent alors véritablement prendre soin de ceux qui prospèrent, sans créer de division. C'est juste avoir une attitude de reconnaissance, de remerciement, d'appréciation. Dans notre monde moderne, malheureusement, les personnes et même des organisations tentent souvent de créer des tensions entre ces groupes sociaux, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ceux qui sont plus riches, ceux qui sont plus pauvres. Des fois, parfois, ils cherchent à promouvoir leur programme ou se faire connaître en suscitant de l'intérêt pour diviser des groupes de personnes. Mais ce n'est pas censé être comme ça dans l'Église de Dieu. Le fait de donner ou de s'occuper de ceux qui sont plus faibles et le fait pour ceux qui en reçoivent l'aide d'être reconnaissants, ça complète la boucle, ça ferme la boucle et tout le monde reçoit quelque chose. Parce qu'on est plus quand même béni de donner que de recevoir, n'est-ce pas? C'est la complexité de ces choses-là qui devient assez simple quand on pratique. Mais sur le plan spirituel, nous cherchons tous à rejeter le péché et à revêtir l'Esprit de Christ. Cet effort collectif et interdépendant contribue à maintenir l'unité dans l'Église. C'est quelque chose qui arrive entre nous, qui renforce l'unité dans l'Église. Et un verset très connu, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce n'est pas marqué si un membre qui est puissant ou riche souffre, tous les membres souffrent, ou quelqu'un qui est haut placé ou peut-être important ou qui est d'une façon ou une autre. Non, c'est n'importe quel membre. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous avez déjà connu ça avec votre petit doigt de pied, n'est-ce pas? Si ce petit doigt de pied, que vous ne pensez pas souvent, si vous le frappez, il fait mal, n'est-ce pas? Et donc, vous allez savoir que vous avez fait mal à votre petit doigt de pied et que c'est tellement important pour votre équilibre. Donc, à propos de ce passage assez connu, j'ai trouvé un commentaire intéressant de F.B. Meyer qui dit ceci à propos de ce passage, le verset 26. Là. Le but de l'apôtre tout au long de ce passage est de mettre en avant l'interdépendance des membres. Chacun apporte aux autres ce qui leur manque et il reçoit à son tour de l'aide de chacun d'entre eux. L'Église chrétienne n'est pas une masse inerte composée de simples disciples et de sujets destinés à être enseignés et gouvernés avec autorité par une petite fraction de ses membres en tout temps. C'est une grande société coopérative dans laquelle chacun est pour tous et tous pour chacun. Et dont le but est d'introduire le Christ dans chaque aspect de notre être et de notre communion. Tout comme le sang nourrit le corps de l'homme. Donc, un nouveau mot est récemment entré en usage, il dit ici, pour exprimer cela, c'est solidarité. Donc, nous avons une solidarité dans l'Église si nous pratiquons ces choses. Alors, ce n'est pas pour enlever la structure que Dieu a mis en place dans l'Église, que nous découvrons dans plusieurs passages. Ce n'est pas pour ça, mais c'est pour rappeler tout le monde que nous avons tous un rôle à jouer. Donc, pour revenir encore à l'histoire rapportée dans Actes chapitre 3, on trouve un exemple parfait, si vous voulez, dans le cas de l'homme infirme qui fut guéri. Ses membres étaient si faibles, imaginez, ses membres étaient si faibles, en fait ses jambes, étaient si faibles qu'il ne pouvait pas supporter le poids de son propre corps. Donc, les membres qui étaient censés de le faire ne pouvaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas fonctionner. Ils ne pouvaient pas marcher à cause de ça. Il était devenu invalide et il avait besoin de l'aide d'autrui pour être simplement conduit jusqu'aux marches du temple. Il utilisait, par contre, sa voix et ses mains pour demander l'aumône, ce qui lui permettait de se nourrir. Donc, en absence de l'utilisation de ses jambes, il profitait de sa voix et de ses bras. Sans cela, il semble qu'il serait mort. Donc, des fois, parfois, quand un membre dans l'Église ne peut pas accomplir quelque chose, il faut que les autres prennent la place. On fait un échange, on réorganise des choses pour que le corps puisse continuer à subsister. Au sein de l'Église, les membres viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est notre rôle. Au-delà de l'argent, ils offrent une attention, un soutien et des encouragements qui n'ont pas de prix. On peut dire qu'ils sont hors de prix. Nous prions également les uns pour les autres. Et même M. Franck a mentionné à propos Éphésiens 6 et le verset 18, l'idée de prier les uns pour les autres en implorant la guérison et l'intervention de Dieu pour les membres qui souffrent. C'est encore quelque chose que nous pouvons faire même si nous n'avons pas les moyens pour vraiment donner aux autres. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont guéris. Est-ce que vous faites ça dans vos prières quand vous avez quand vous entendez que quelqu'un que vous avez mentionné dans vos prières soit guéri, est-ce que vous remerciez Dieu de ce? On peut même remercier Dieu de voir quelqu'un que nous connaissons qui va surmonter une épreuve, qui va pouvoir lutter pour un temps et puis surmonter une difficulté. Donc, on peut se réjouir avec eux aussi. Non, maintenant, passons à la guérison, si vous voulez. On va passer de la guérison elle-même et on va poursuivre un petit peu plus loin. Dans Actes chapitre 3, c'est en fait le serment qui suit la guérison qui est assez intéressant. Nous avons déjà mentionné que le nom de Christ a été mentionné, invoqué pour la guérison. Et c'est ça, encore une fois, qui est renforcé dans le discours de Pierre ici. Il commence avec une réprimande assez sévère au verset 12 et puis dans la première partie. C'est une réprimande pour ceux qui avaient porté Christ à la mort. Par conséquent, certains de ces hommes avaient peut-être même fait agi quand même. Directement dans tout ce qui s'est passé. Verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Donc, c'est une réprimande pour tous ceux qui étaient impliqués, mais nous le comprenons aussi que c'est applicable à nous parce que nous avons péché. Nous sommes tous en péché, donc tous ont été coupables de la mort de Jésus-Christ de cette façon, parce qu'il a fallu qu'il meure pour nous, pour nos péchés, pas pour les siens. Donc voilà, nous avons un exemple ici d'une correction, mais plus important, peut-être, c'est ce qui se passe juste après. Si nous lisons le verset 16, C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et donc, on insiste sur le changement radical encore, ici physiquement, mais dans notre vie spirituelle, on est censé de vivre un changement radical aussi. Intéressant parce qu'il adoucit ce qu'il vient de faire avec le verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Donc, nous avons l'accomplissement de la prophétie par l'ignorance. Ils ont ignoré le fait que c'était leur sauveur, celui qui est venu payer l'amende de péché. Donc, ils ont oublié ça, ils étaient ignorants de ça, et il est mort. C'était ordonné. Donc, verset 17 et verset 18 sont très importantes. Ces versets-là sont très importants. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Oui, excusez-moi, le verset 19, très important. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Intéressant, n'est-ce pas, que ce temps de rafraîchissement est censé de remplacer dans l'avenir complètement, mais même dès maintenant dans notre vie. Nous sommes censés de vivre un rafraîchissement, un changement radical pour suivre la voie divine. Et puis, pour prier un jour le retour de Christ, pour demander que ton règne vienne. Verset 21 nous dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous avons discuté l'idée de 7 semaines entre la fin de la fête des pains sans levain et le début de la Pentecôte. Nous avons discuté cela parce que il y a un temps d'attente, si vous voulez, mais ici, dans ce passage, Pierre parle d'un temps d'attente aussi, un temps d'attente du retour de Jésus-Christ. Et ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que notre temps d'attente est censé d'être plein de rafraîchissement, plein de vie, plein de soif pour la justice, et non pas simplement l'idée de compter les jours, compter et passer une vie quotidienne sans profiter de la grâce et du don que Dieu nous a donné. Considérons 1 Timothée, mais gardons notre place ici. 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Dans le contexte de ce que nous venons de lire, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas, de considérer l'idée d'être fortifié par un miracle. Est-ce que nous sommes fortifiés pour faire face à ce qui est devant nous, que ce soit un monde très violent, un monde très difficile et un monde dans lequel on ne peut pas faire confiance aux autres? Peut-être même dans notre vie personnelle, des difficultés relationnelles ou en famille, ou peut-être des difficultés de santé aussi. Mais Intéressant, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Nous avons aussi agité en ignorance dans le passé, mais nous ne pouvons plus se servir de ça pour notre conduite actuelle. Nous sommes avertis, nous sommes instruits, et nous sommes censés de rester tout près de Dieu, et d'avoir toujours la soif pour la justice, de ne pas relâcher, de ne pas tomber de nouveau dans la vie ancienne et dans nos vieilles habitudes. Donc, qu'est-ce que le temps de rafraîchissement? Cela applique à la fois au millénium, bien sûr, le rafraîchissement qui reviendra sur la terre, mais aussi au baptême pour recevoir le don de Dieu. Dans les deux cas, il s'agit d'un rafraîchissement ou d'un renouveau qui provient de la présence de Dieu, d'une relation juste et droite avec Dieu, ainsi qu'un rajeunissement et d'une force spirituelle continue. Donc, nous attendons tous ce temps de rafraîchissement à venir, mais entre-temps, notre rôle, c'est de toujours rester assoiffé et de renforcer cette soif pour la justice. Maintenant, de nouveau, dans Actes chapitre 3, nous avons la conclusion ici de ce serment de Pierre. Intéressant parce que il vient de nous parler de quelque chose, on peut dire, il vient de leur parler de quelque chose qui n'était pas arrivé et qui n'est pas encore arrivé de nos jours. Mais qu'est-ce qui se passe ici, verset 24? « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toute ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Il parle du peuple d'Israël ici, les descendants d'Abraham. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous faisons partie de la famille spirituelle d'Abraham. Et nous sommes obligés, nous sommes appelés à se détourner de ses iniquités et d'être assoiffés pour la justice. Le proverbe 21, Proverbe 21 et le verset 21 nous dit ceci. Proverbe 21 et le verset 21 vis-à-vis de la justice. Nous avons une poursuite à continuellement faire. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. J'ai trouvé ça toujours intéressant qu'en poursuivant quelque chose, on peut en découvrir d'autres. En poursuivant la justice et la gloire, on trouve quelque chose d'autre, on trouve la vie, la justice et la gloire. Donc, la vie éternelle, est-ce que ça nous intéresse? C'est ça l'idée d'être complètement rassasié de justice, n'est-ce pas? C'est ce changement à venir. Ce changement à venir, on y pense quand on lit Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4. Avant de terminer, Jean 4, un jour, on sera complètement rassasié, mais aujourd'hui, on est censé de rester assoiffé pour la justice, d'entrer dans le temple, d'entrer dans le lieu saint, d'entrer devant Dieu et de prier directement à lui, et de lui demander de lui présenter nos besoins et de confier en lui notre vie entière. Jean 4 et le verset 14. Mais verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Un jour, notre soif pour la justice sera pleinement assouvie. En attendant, continuons à prendre soin les uns des autres et continuons à avoir soif pour la justice.